Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le programme pour aujourd'hui sera commencé par le kaléidoscope de janvier jusqu'à juillet 2016, qui sera continué avec le magazine culturel. Et après, vous allez écouter l'Indonésie en couleur, qui sera continué avec des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le kaléidoscope de janvier jusqu'à juillet 2016.
Chers auditeurs et auditrices, pendant l'année 2016, il y avait des événements intéressants qui se sont passés. Nous allons vous le présenter dans le Kaléidoscope Indonésie 2016 de la Voix de l'Indonésie. Dans le premier jour de 2016, le président Joko Widodo a rendu une visite au district Kais, la région Sorong du Sud. La visite au district Kais est l'une des activités importantes pendant la visite de Papua. Président Joko Widodo a dit que toutes les régions à Papua seront connectées l'une des autres par l'autoroute en 2018. Dans sa visite à Sorong, le président Joko Widodo et sa femme Iriana Widodo ont aussi visité l'usine de Sagu du district Kais à la région Sorong du Sud. Le président a surveillé l'usine pour voir le procès de la production du Sagu et il a souhaité que cette usine soit avantageuse pour les habitants de Kais. Le 7 janvier, le gouvernement indonésien à travers le ministère de la Défense a signé le Mémorandum de Cost Share Agreement, ou CSA, avec l'industrie aéronautique du Corée, ou Korea Aerospace Industries, comme le commencement de la deuxième étape du développement du programme du combattant KFX, ou IFX, entre l'Indonésie et la Corée du Sud, et le ministère de la Défense Ria Misaria Sudu a expliqué que avec la signature du mémorandum de CSA, il espérait un engagement sérieux pendant le développement du programme. La signature du mémorandum de CSA a été faite par le directeur général du potentiel de la défense, Timbul Siahan, et le président de l'industrie aéronautique du Corée, Ha Sung-yong. Dans le même jour, l'Institut de radiodiffusion publique, Radio République Indonésie, ou Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRRI, a gagné le prix d'Adam Malik donné par le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie. L'Institut de radiodiffusion publique, Radio République Indonésie, a mérité le 5e prix Adam Malik qui avait été gagné auparavant en 2009, 2013, 2014 et 2015. Le directeur de l'information et des médias du ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Siti Sofia Sudarma, en délivrant les candidats de gagnants du prix d'Adam Malik au bureau du ministère des Affaires étrangères à Jakarta, a dit que le prix d'Adam Malik est un prix donné pour les médias et journalistes nationaux qui étaient considérés comme les meilleurs partis dans la distribution de reportages étant neutres, factuels, informatifs et éducatifs pour les citoyens en général concernant l'exécution des affaires politiques et diplomatiques indonésiennes.
Setelah melalui berbagai pertimbangan, izinkanlah kami untuk membacakan para penerima penghargaan Adam Malik.
Le prix d'Adam Malik est une sorte de prix donné aux médias et journalistes nationaux que l'on considère à avoir fait les meilleurs reportages étant neutres, factuels, informatifs et éducatifs pour les citoyens dans le cadre politique étrangère et l'activité diplomatique indonésienne. Après avoir fait plusieurs considérations, permettez-nous de nommer les gagnants du prix d'Adam Malik 2016. Pour la catégorie de la meilleure radiodiffusion, le prix sera donné à la Radio République Indonésie. Pour la catégorie du meilleur journaliste, le prix sera donné à M. Marwan Muhammad Zubaidi de Radio République Indonésie. Le 9 janvier, le vice-président Yusuf Kalla a assisté à l'annonce officielle symbolique de l'hôpital d'Indonésie à Gaza, au parc d'Ismail Marzuki ou Taman Ismail Marzuki à Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla, pendant la cérémonie, a dit que l'installation de l'hôpital d'Indonésie à Gaza, la Palestine, vise à renforcer la relation entre les deux pays. Vers le ministre de la Santé de Palestine et l'ambassadeur de Palestine pour l'Indonésie, Faris Modawi, Yusuf Kalla a dit que l'installation de l'hôpital Indonésie à Gaza, par le comité du sauvetage médical urgent, ou Medical Emergency Rescue Committee, était un effort humanitaire et un trait merveilleux qui avait été fait par les Indonésiens pour les Palestiniens. Dans ce cas, le vice-président Yusuf Kalla espérait que l'installation de l'hôpital d'Indonésie à Gaza devenait la première étape qui encourage d'autres efforts pour gagner l'indépendance du Palestine. Le 13 janvier 2016, le président Joko Widodo a officiellement annoncé la mise en place de l'organisation de la restauration du gazon pour restaurer les terres endommagées par les incendies de forêt et de tourbe. Joko Widodo a nommé l'ancien directeur du WWF Indonésie Nazir Fuad pour diriger l'organisation. Joko Widodo, au Palais d'État Jakarta, a dit que Nazir Fuad a la compétence et l'expérience dans la restauration des forêts et de la tourbe, en particulier la capacité de coordonner avec les ministres et les réseaux d'agences internationales. Joko Widodo a demandé à Nazir de faire un plan de travail immédiatement. Joko Widodo voulait que l'organisation de la restauration du gazon pouvait prouver que le gouvernement indonésien est très sérieux à restaurer les terres endommagées par les incendies des forêts et des tourbes. Le 26 janvier, le président de la République démocratique du Timor oriental, Thaur Matanruak, a conféré la médaille d'honneur la plus précieuse de Timor-Leste. C'est « The Grand Collar of the Order of Timor-Leste » au président indonésien Joko Widodo au palais présidentiel à Dili, au Timor oriental. Président Joko Widodo, lors du déjeuner à Dili, au Timor oriental, a déclaré que les deux pays se sentaient en lien et de la coopération qui se renforce. Président Joko Widodo a exprimé son gratitude pour l'attribution de la plus haute médaille, The Grand Collar of the Order of Timor-Leste, du président du Timor. Il a souligné que le prix est devenu une énorme responsabilité pour lui dans le maintien d'amitié, de la fraternité et de la coopération étroite et des avantages mutuels pour les deux pays. Nous passons aux événements importants ayant lieu au février 2016. Le premier jour du mois de février 2016, le président Joko Widodo a accueilli le premier ministre hongrois Viktor Orban et Madame Annie Kolevai au Palais d'État à Jakarta. Le président Joko Widodo a dit que la visite du premier ministre Viktor Orban était accompagnée de près de la moitié des membres de son cabinet et 50 employeurs montraient l'engagement de la Hongrie pour renforcer les relations de coopération avec l'Indonésie. Lors de cette rencontre, le Premier ministre Viktor Orban a apprécié l'Indonésie en tant que pays ayant de belles perspectives et en tant que membre du G20, et aussi comme un grand joueur dans l'économie mondiale. Après cette réunion bilatérale, ils ont signé un protocole d'accord sur la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans le domaine des programmes d'échange d'enseignement supérieur. Le 3 février, président Joko Widodo a accueilli une visite de courtoisie du ministre de l'Environnement et Changement Climatique du Royaume de Norvège, Vidar Helgesen, au Palais d'État, Jakarta. La ministre d'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, après la rencontre avec le président, a expliqué que lors de la réunion, le président et le ministre Vidar Helgesen discutaient des questions forestières, application de la loi, le moratoire et quelques autres choses importantes. Siti Nurbaya a ajouté, le président avait clairement indiqué que pendant le moratoire, la licence dans les nouvelles zones tourbières ne devrait pas continuer à exister et la licence ne devrait plus exister dans des nouvelles terres de compensation avec un permis existant si on ne s'ouvrait pas les zones. Pendant ce temps, le ministre Vidar Helgesen a dit que cette visite de courtoisie entre l'Indonésie et la Norvège avait pour but de renforcer la coopération dans la gestion des tourbières en Indonésie. Il a ajouté que cette étape est une étape importante pour l'Indonésie, à la fois pour le peuple de l'Indonésie, l'économie de l'Indonésie et le climat de la planète. Le 14 février, le président Joko Widodo est parti aux États-Unis pour participer au sommet des États-Unis ASEAN pendant 4 jours. Dans une conférence de presse à l'aéroport Halim Perdana Kusuma, président Jokowi a dit qu'il y avait deux choses principales à discuter. Le thème économique serait la première discussion lors d'une réunion des 15 et 16 février. Le deuxième thème qui serait discuté entre le président américain Barack Obama et les dirigeants des pays de l'ASEAN était le problème du terrorisme. En particulier, le président Jokowi fera un discours sur la sécurité et le partage d'expériences sur la lutte contre le terrorisme.
Tema yang akan diusung oleh Indonesia tentunya partnership for peace and prosperity. Bagaimana?
En tant que pays avec la plus grande population musulmane dans le monde, nous allons augmenter l'importance de la participation de la communauté, y compris par les médias sociaux, dans la construction de la tolérance, la prévention de la radicalisation et la lutte contre le terrorisme, en plus de rencontrer le chef du gouvernement, je vais également assister les conseils des affaires des États-Unis et l'ASEAN à San Francisco le 17 février 2016. Je profiterai de la visite à San Francisco pour visiter la Silicon Valley, d'avoir une rencontre avec les PDG des sociétés géantes de la technologie d'information. Le 15 février, président Joko Widodo a fait une réunion bilatérale avec le premier ministre du Vietnam, Nguyen Tan Dung, dans la salle de réunion Miramont, Indian Wells, en Californie. Le 16 février, le président Joko Widodo a assisté à une session Retreat 2 dans le sommet des États-Unis et ASEAN, ou Conferensi Tingkat Tinggi, KTT-AS, ASEAN. Dans cette occasion, le président a souligné la nécessité d'un gouvernement stable pour combattre le terrorisme et de réduire le nombre de citoyens qui ont combattu avec les terroristes dans les pays étrangers. Toujours dans une série de visites aux États-Unis, le 17 février, président Joko Widodo a visité le Googleplex à 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Lors de la visite, Joko Widodo a apprécié le soutien de Google dans la lutte contre la pêche illégale qui ne sont pas détectées dans les zones maritimes en Indonésie. Moussé. Puis nous présentons les événements importants de mars 2016. Commençons au 2 mars. Président Joko Widodo a signé le décret présidentiel numéro 21-2-2016. Sur la visite sans visa pour les touristes en provenance de 168 pays. Selon le décret, les receveurs sont exemptés de l'obligation d'avoir un visa de visiteur pour entrer sur le territoire de l'Indonésie. Et ils peuvent également entrer en Indonésie sans se rendre au point de contrôle de l'immigration. Les receveurs bénéficient d'une visite de permis de résidence pour une période de 30 jours. Et la période de validité ne peut être prolongée ou transformée en tout autre permis de séjour. Le 6 mars, l'Indonésie a accueilli le 5e sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, ou OCI, qui a eu lieu le 6 et 7 mars 2016 à Jakarta. Dans son discours à la cérémonie d'ouverture, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie était honorée d'accueillir le sommet extraordinaire de l'OCI pour discuter de la Palestine et Al-Quds Al-Sharif ou Jérusalem.
Jadi pada hari ini terdapat dua pertemuan, yaitu pertemuan yang pertama adalah pertemuan senior official meeting, di mana dibahas draft dari dua dokumen yang akan dihasilkan dari pertemuan KTT besok, yaitu resolusi.
C'est un honneur pour l'Indonésie d'accueillir le sommet extraordinaire de l'OCI sur la Palestine et Al-Quds Al-Sharif. Et ce sommet est le reflet de notre soutien total au règlement de la Palestine qui aboutit à l'indépendance de la Palestine. Le 9 mars 2016 était une journée historique en Indonésie en raison d'un phénomène naturel rare dans la forme de l'éclipse solaire totale étant visible dans un certain nombre de zones dans le pays. Le processus pouvait être vu par le public pendant moins de 3 minutes au Pagai Utara de Sumatra Ouest, Palembang de Sumatra du Sud, Tanjung Pandan de Bangka, Palangkaraya de Kalimantan Central, Balikpapan de Kalimantan Est, Palu de Sulawesi Central, Ternate de Maluku du Nord et Maba de Maluku du Nord. Pour être en mesure de profiter d'une éclipse solaire totale dans la même position, il faut attendre jusqu'à 30-50 ans. Le 13 mars, le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a inauguré le premier consul honoraire de l'Indonésie en Palestine, Maha Abu Syuseh, qui est basé à Ramallah. La cérémonie d'inauguration a été menée à l'ambassade d'Indonésie, Amman, en Jordanie, avec la présence du ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, les ambassadeurs des pays de l'ASEAN et l'Organisation de la coopération islamique à Amman. Retno Marsudi a demandé Maha Abu Syuseh de faire un rôle actif pour améliorer les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Palestine. Le consul honoraire de l'Indonésie à Ramallah a pour but de servir et protéger les citoyens indonésiens et les entités juridiques indonésiennes tout en améliorant la coopération économique et socio-culturelle entre les deux pays. Le consul honoraire de l'Indonésie vise également à servir la promotion du développement économique, le commerce, le tourisme, l'investissement, le travail et les services et la promotion du développement socio-culturel. Retno Marsudi a affirmé que l'inauguration et l'ouverture du bureau du consul honoraire à Ramallah preuve un soutien tangible de l'Indonésie aux Palestiniens. La 6e réunion du Bali Procès sur le trafic de migrants, la traite et la criminalité transnationale le 22 mars a été officiellement ouverte par le directeur général des affaires multilatérales des affaires étrangères, ambassadeur Hassan Klaib, à Nusa Dua, Bali, le 22 mars 2016. La réunion à laquelle assistaient 303 délégués de 54 pays, 12 pays observateurs et 8 organisations internationales a abouti aux divers accords pour relever les défis de la migration irrégulière dans certaines régions. Dans son discours, l'ambassadeur Hassan Klaib a compris les besoins des pays membres du Bali Process pour répondre aux défis de la traite des êtres humains qui se passent dans le monde.
We acknowledge the need for the Bali process to be always relevant by responding timely to emergency situations whenever and wherever they arise.
Nous reconnaissons la nécessité pour le Bali process d'être toujours pertinent en répondant en temps à la situation d'urgence chaque fois et où qu'elle se produise. ça causé par la migration irrégulière dans nos régions. C'est à cet égard que nous proposons d'établir un mécanisme consultatif entre les coprésidents pour répondre à une telle situation d'urgence. Les coprésidents voudraient demander votre soutien à la déclaration du Bali Process sur la migration irrégulière. C'est effectivement un document non juridique qui exprime notre préoccupation, réaffirmant notre engagement et définissant nos priorités pour les deux prochaines années. Le 23 mars, le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi et le ministre australien des Affaires étrangères Julie Bishop ont fermé officiellement le 6e Bali Process à Nusa Dua, Bali. L'Indonésie ainsi que l'Australie ont présidé une réunion des pays membres du Bali Process sur le trafic des migrants, la traite des personnes et les criminalités transnationales. Un résultat important de la réunion a été l'accord sur la mise en place d'un mécanisme régional pour accélérer le traitement de la question de la migration irrégulière, y compris les demandeurs d'abri et les réfugiés. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors de cette conférence de presse après avoir fermé la réunion du Bali Process mercredi à Nusa Dua, Bali, a dit que par ce mécanisme, le coprésident peut établir les communications avec les pays concernés, soit les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination, au cas où il y a une situation d'urgence.
Apabila memang perlu ada pertemuan yang lebih luas, maka kita akan meminta steering committee.
S'il est nécessaire d'avoir une réunion plus large, alors nous demanderons au comité de direction pour répondre davantage avec les pays affectés et les pays intéressés. Non seulement les pays touchés, mais il peut y avoir certains pays qui ne sont pas touchés, mais veulent contribuer. Alors nous les accueillons également. Le 26 mars 2016, deux navires indonésiens ont été détournés par le groupe Abu Sayyaf pendant la navigation de Sungai Puting à Kalimantan du Sud, dirigée à Batangas, Philippines du Sud. Ces deux navires détournés étaient Brahma 12 et le barge Anand 12, transportant 10 membres d'équipage de nationalité indonésienne.
Chers amis, nous vous présentons les événements importants en avril 2016. Du 17 au 23 avril 2016, le président Joko Widodo a mené une série de visites à un nombre de pays en Europe. La visite était commencée en Allemagne, suivie par la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas. Cette visite s'est concentrée à discuter les sujets de la coopération économique et de la paix. Le 20 avril, le vice-président Yusuf Kalla a ouvert l'exposition d'artisanat indonésien Inacraft 2016, étant tenu pendant 5 jours jusqu'au 24 avril 2016. Inacraft 2016 a connu la participation de 1400 participants, des producteurs et exportateurs d'artisanat en provenance de 34 provinces en Indonésie, qui ont placé 1333 points de vente. Dans cette exposition, le nombre de participants individuels a augmenté à 849 cabines et 359 cabines d'agence, 117 cabines des entreprises publiques et 8 cabines de participants étrangers, à savoir Singapour, le Japon, le Pakistan, le Népal, l'Inde et la Syrie. Le thème de l'INACRAF cette fois était « From Smart Village to Global Market », soit du village intelligent au marché mondial. Elle était destinée à faciliter les produits artisanaux indonésiens afin d'atteindre un niveau plus élevé au niveau des produits artisanaux d'Indonésie. Le 27 avril, le président Joko Widodo a inauguré l'ouverture du sommet e-commerce et expo IESE 2016 à Indonesia Exhibition Convention, Tangerang, Banten. Le sommet e-commerce et expo est un forum de rencontre qui réunit des conférenciers nationaux et internationaux à partir d'une variété de e-commerce tels que la vente au détail en ligne, marchés classés, offres quotidiennes et dans services de paiement. Il y a aussi 200 cabines e-commerce et 100 cabines des micro, petites et moyennes entreprises qui animent l'exposition de l'industrie créative numérique. Ensuite, les événements importants en mai 2016. Le 1er mai 2016, 10 hommes du bateau indonésien qui ont été enlevés dans les eaux des Philippines ont été libérés par le groupe militant Abu Sayyaf dans la région de Sulu. La police de la région provinciale de Sulu, Wilfredo Chayat, a confirmé cette libération. Ces 10 hommes de navire étaient libérés devant la résidence du gouverneur de Sulu, Abdusakur Tantoto. Le même jour, ces 10 Indonésiens sont arrivés à l'aéroport Halim Perdana Kusuma. Le 5 mai 2016, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno L.P. Marsudi, à Yogyakarta a rencontré le ministre philippin des Affaires étrangères, José René de Almendras, et le ministre malais des Affaires étrangères, Sri Anifah Haji Aman, afin de discuter de la sécurité dans les eaux autour des trois pays. Cette réunion trilatérale était faite compte tenu de la situation sécuritaire dans les eaux de la région de l'ASEAN, en particulier dans les frontières aux trois pays qui étaient interférées avec l'action des navires détournés par des groupes armés. Le 8 mai, le vice-président Youssef Kalla a officiellement libéré la première exportation de navires de guerre déployés par PAL Indonesia aux Philippines, étant ordonnée par le ministère de la Défense du pays. Le type de bateau, navire stratégique Sea Lift, est en premier ordre et libéré au dock de la division de navires commerciaux au port Tanjung Perak, Surabaya, Javaès. Le vice-président a déclaré que le succès des exportations de navires est le succès de PAL Indonesia, société anonyme, dans la maîtrise de la technologie, parce que la position de PAL est un chantier naval qui existe depuis longtemps en Indonésie. Nous vous présentons maintenant les événements importants en juin 2016. Sept citoyens de l'équipage du navire Charles 001 qui ont quitté de Samarinda étaient pris comme otages par les groupes armés prétendument une de la faction d'Abu Sayyaf. L'otage s'est passé le 20 juin dans la mer de Sulu aux Philippines. Le ministre des Affaires étrangères, Retno L.P. Marsudi, le 23 juin, a confirmé l'otage contre sept ressortissants indonésiens par des groupes armés en provenance des Philippines. Retno Marsudi a condamné la prise d'otage contre l'équipage de navire de l'Indonésie par un groupe armé qui s'est passé dans le sud des Philippines. Elle a affirmé que le gouvernement indonésien ferait tous les moyens possibles pour libérer l'équipage pris en otage, ont été en coopération avec divers partis, y compris le gouvernement des Philippines. La sécurité de sept citoyens indonésiens est une priorité. Le gouvernement indonésien a demandé au gouvernement philippin d'assurer la sécurité dans les eaux territoriales du sud des Philippines afin qu'ils ne perturbent pas les activités économiques de la région. La séance plénière du Parlement d'Indonésie le 27 juin 2016 a approuvé le rapport de la Commission 3 du Parlement sur les résultats de la faisabilité et la pertinence des candidats indonésiens pour chef de la police, le commissaire général Tirto Karnavian. Dans son rapport avant la réunion plénière le lundi à Jakarta, le président de la Commission 3, Bambang Susatyo, a déclaré qu'après avoir traversé le processus de test et de sélection, la séance plénière de la Commission du domaine juridique a approuvé la nomination du chef de l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme en tant que chef de la police nationale indonésienne. En outre, la séance plénière du Parlement a également approuvé le licenciement de la police générale Badruddin Haiti en tant que chef de la police nationale indonésienne.
Berdasarkan keputusan rapat pleno tersebut, Komisi 3 DPR RI melalui pandangan fraksi-fraksi menyetujui.
Sur la base de la décision de la séance plénière, la Commission 3 du Parlement, à travers les opinions des factions, a approuvé le licenciement de la police générale Badruddin Haiti en tant que chef de la police nationale indonésienne et a ensuite approuvé la nomination du commissaire général M. Tirto Karnavian en tant que chef de la police nationale indonésienne. Après avoir ratifié le commissaire général Tirto Karnavian en tant que chef de la police de la République d'Indonésie, le président de la Chambre des représentants, Ade Komarudin, a dit qu'il a immédiatement envoyé une lettre au président Joko Widodo afin d'introniser le nouveau chef de la police nationale indonésienne le plus tôt possible. Selon lui, le processus de diligence raisonnable du candidat du chef de la police s'est marché en douceur parce que chaque faction au Parlement a l'avis que Tirto Karnavian possède la compétence pour diriger la police nationale indonésienne.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure le kaléidoscope de janvier jusqu'à juillet 2016. Et le kaléidoscope de août jusqu'à décembre sera présenté demain. Et maintenant, je vais présenter le magazine culturel.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant le magazine culturel intitulé Le village de Kemasan, situé dans la ville de Gresik. Depuis le 11e siècle, Gresik dans la province de Java East est devenu le centre commercial qui était visité par de nombreux pays tels que la Chine, l'Arabe et le Champa ou le Cambodge et aussi Gujarat. Cette ville est également une première entrée de l'islam à Java, qui se caractérisait entre autres par les tombes de l'islam antique. Et Gresik est devenue l'un des principaux ports et villes commerciales, qui est très important depuis le 14e siècle. La ville de Gresik, dans la province de Java East, flanquée de deux grands fleuves, Estuaire de la rivière Bengawan Solo et Brantas. C'est ce qui rend Gresik comme la ville portuaire stratégique et comme le système commercial régional reliant les régions intérieures de Java avec les régions en dehors de Java. La gloire se reflète entre autres dans l'existence de la mosquée Jami, le bâtiment de parlement, le bureau de poste, la résidence officielle du vice-régent, le bâtiment Limo, le bâtiment Gajah Mungkur et le village de Kamasan. Ces bâtiments et le village ont la valeur historique et continuent à maintenir jusqu'à présent. Au XIXe siècle, le village de Kamasan est la colonisation des Européens et indigènes qui sont établis en terme de l'économie. Cette région est devenue la base de commerçants indigènes à cette époque. Le village de Kamasan, Gresik, est situé dans la rue de Nyai Ageng Aram Aram, à proximité de la place principale de Gresik, où on dit Alun-Alun de Gresik. Il est facile à y aller et à trouver. Par conséquent, l'architecture des bâtiments du village de Kamasan est influencée par la culture coloniale néerlandaise. Ceci peut être vu dans le bâtiment qui est élevé avec des portes et de grandes fenêtres, tandis que l'influence tribale, plus mineure, et la culture chinoise vaut dans des accents russes orientaux sur les portes et les fenêtres. Ces deux donnent l'impression de luxe et invite les amoureux de l'histoire, de la culture et aussi amateurs de photographie pour visiter ce village. Cette fois, l'équipe de recherche Bangunan Cagar Budaya de la Régence de Gresik mène des recherches afin de publier immédiatement une décision concernant la création de dizaines de maisons à Kampung Kamasan ou le village de Kamasan. Les maisons reliques de l'époque coloniale sont recommandées comme les bâtiments du patrimoine culturel. Selon le chef de l'équipe, Umar Zainuddin, notamment pour le village de Kamasan, il y a environ 13 maisons qui sont indiquées dans la catégorie du patrimoine culturel. Parce que l'âge du bâtiment a atteint une moyenne de 100 ans et dépasse les limites de l'immeuble dans la catégorie du patrimoine culturel. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, écoutons maintenant l'Indonésie en couleur qui sera continuée avec des chansons indonésiennes.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur, intitulée Le passage clouté avec un dessin unique dans la ville de Bandung, Java West. La ville de Bandung en Indonésie a beaucoup de l'unicité et la capitale de la province de Java West est nommée comme ville de dessin par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou l'UNESCO. Le prix rend le gouvernement de Bandung améliore l'innovation pour embellir la planification urbaine, entre autres, de concevoir le passage clouté avec la forme de l'image. L'un des passages, surtout à la croisée des chemins pour les piétons, est communément appelé un passage clouté. D'habitude, ils sont faits avec des lignes noires et blanches comme la marque de zèbre. Si vous visitez la ville de Paris Van Java Bandung, vous ferez le passage clouté coloré étant unique en forme de flûte, l'instrument de musique javanaise angklung, etc. Le passage clouté sur la route Asia-Africa avec l'image de l'instrument de musique angklung. Le passage clouté sur la route de Braga est conçu l'instrument de musique de flûte. Chaque passage clouté dans les routes respectives est conçu avec des images différentes. Selon le chef du département de transport de la ville de Bandung, M. Didi Riswandi, il y a deux objectifs de passage clouté avec le design unique. Tout d'abord pour attirer l'attention et rappeler aux piétons. Deuxième moment pour rappeler aux automobilistes de respecter les piétons qui traversent. Les usagers ont le droit à avoir le passage clouté pleinement sans la moindre saisie par les utilisateurs de véhicules. Cette idée créative a beaucoup de réponses positives du public. Non seulement l'image de zèbre cross qui change, mais le plus important d'alerter les automobilistes à réduire leur vitesse et respecter les piétons. Et les piétons doivent être plus prudents lorsque vous allez traverser la route. Regardez sur votre gauche et à droite avant de traverser. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour, c'est Semi de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique pour l'édition vendredi, avec moi Yubi Surianto qui va vous accompagner pendant 15 minutes. Vous pouvez écouter nos émissions par l'onde courte 900-200 kHz ou sur internet à l'adresse www.voi.co.id. Comme d'habitude, afin de terminer cette émission, nous allons vous présenter maintenant une chanteuse, s'appelle Nur Afni Octavia. On écoute sa chanson intitulée Si tu es seul.
Bila kau seorang diri, jangan kau bersedih.
Ces auditeurs, une chose est sûre, tout le monde ne veut pas seul. La solitude va rendre les gens deviennent solitaires. Lorsque la solitude enveloppe une personne, la personne est susceptible de souffrir de dépression, enfin capable de s'oublier. Les paroles de cette chanson nous rappellent qu'il ne vaut pas dériver en solitaire quand il est seul, et l'amant va accompagner. On écoute la chanson Daphné suivante, intitulée Senandung Doa. Nur Afni Octavia a réussi à devenir une chanteuse populaire à l'année 90. Sous un musicien et compositeur connu, le défunt Rinto Harahap, qui produit beaucoup de chanteurs pop dans le pays. Les chansons de Rinto sont simples et faciles à comprendre dans une série de beaux tons. Il va vite au cœur des amoureux des chansons pop dans le pays. La popularité de Avni Octavia n'a pas duré longtemps après le mariage. Le chanteur est occupé sur ses activités en tant que femme seulement. On termine notre magazine musical avec une chanson intitulée « Chin Chin Kanangan ». Bonne écoute et au revoir.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.